Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'ALEP. Je suis actuellement en compagnie de Muriel et Marion qui viennent nous parler aujourd'hui des chants des oiseaux.
Bonjour Corentin.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bien, bien. Merci. Ça va. Et toi ?
Très bien, très bien. Alors je vous laisse attaquer.
Bah oui. Du coup, la semaine dernière, on avait parlé de migration. Et c'est vrai qu'avec la migration, comme on l'a dit, il y a certains sons qui arrivent à nos oreilles. Alors aujourd'hui, pourquoi on a choisi de s'intéresser aux chants d'oiseaux, Muriel ?
Eh bien, parce qu'avec l'arrivée du printemps et des oiseaux migrateurs, on a l'impression que ça se réveille de tous les côtés. On entend plein de choses, ça piaille, ça glapille, ça turlute, ça craquette, ça glotore, bref, ça chante, ça crie, ça s'exprime.
Waouh, ça fait beaucoup de mots pour parler de chants d'oiseaux, mais alors, d'où ça vient tous ces noms ?
Chaque espèce possède un chant différent, et on sait même qu'au sein d'une même espèce, il peut y avoir une vingtaine de chants et de cris différents, d'où tous ces noms pour les différencier.
Ah oui, du coup on peut penser au coucou par exemple, qui porte le nom de son chant un peu.
Voilà, celui-là c'est le plus simple parce qu'il chante son nom, ou alors on lui a donné le nom de son chant au choix. Mais voilà, par exemple, le terme coq en français est aussi issu du chant, puisqu'on a transcrit cocorico en fait.
Ah oui, d'accord. Et du coup, le chant, c'est comme nous, ça vient des cordes vocales ou...
Pas exactement. En fait, contrairement aux mammifères, les oiseaux ne possèdent pas de cordes vocales. Donc, ils sont pourvus d'un autre organe qui s'appelle le syrinx, qui est à la base de la trachée. Donc, la plupart des espèces émettent des sons, des chants ou des cris, mais il y en a aussi qui produisent des sons qui ne sont pas vocaux, comme des froissements d'ailes ou grâce à des poches de peau. On peut aussi penser à la cigogne qui ne chante pas, mais qui claque du bec pendant les parades nuptiales. Voilà. Donc, il y en a d'autres qui sont aussi capables de se servir de l'écholocation, comme les dauphins et les chauves-souris.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
L'écholocation, en fait, c'est le fait d'émettre un son et de se repérer dans l'espace en fonction de l'écho qui revient aux oreilles. Voilà. Après, au niveau du système auditif, il est aussi moins sophistiqué que celui des mammifères, mais certains d'entre eux ont quand même une audition très très fine. Donc en fait, certaines espèces sont capables de reconnaître la signature vocale d'autres individus, même après plusieurs fois en fait. Par exemple, comme les couples de manchots qui sont capables de se reconnaître parmi des centaines d'individus.
Ah oui, balèze quoi. Et du coup, ça leur sert à quoi de chanter ou de crier ?
C'est surtout un rôle social, parce que c'est une sorte de repère. On sait qu'un oiseau isolé ou sans femelle chante plus fort qu'en couple. Parce que souvent, ils peuvent avoir peur de la solitude. On utilise cette peur, en fait, pour faire chanter les oiseaux en cage. Par exemple, on isolait des oiseaux pour les faire chanter un peu plus fort. Il sert également de cohésion. Quand les oiseaux se rassemblent en ronde, ils chantent tous ensemble et ça soude en fait la population. Mais ça sert aussi au mâle pour séduire les femelles ou pour revendiquer un territoire. Il y a aussi les cris d'alarme qui servent de signal d'alarme pour alerter soit les individus de la même espèce, soit d'autres espèces sur un danger qu'il peut y avoir.
Comme le jet quand on va se promener en forêt.
Voilà.
Qui hurle dans tous les sens, quoi.
Voilà, qu'on appelle la sentinelle de la forêt. Et en fait, ces cris sont identifiés par les autres espèces comme signal d'alarme, de menace. Et ça a été utilisé par certains effaroucheurs, en fait, pour faire décoller les oiseaux sur des zones où on n'en veut pas, comme sur les pistes d'aérodrome ou certains espaces verts. Voilà.
Et comment ils faisaient pour reproduire ce son ?
Pour le reproduire ? Ouais. Au niveau des oiseaux ou des humains ?
Mais c'est... Les humains qui s'en servaient pour faire partir un certain nombre d'oiseaux.
Voilà.
C'est bien ça ?
Ouais. Soit ça peut être aujourd'hui enregistré. Après, les oiseaux ont une certaine capacité à imiter d'autres chants. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est surtout de l'enregistrement et du passage en boucle. On peut aussi l'utiliser, l'enregistrement, pour faire répondre des oiseaux de la même espèce, ça s'appelle la repasse, ça nous permet d'identifier pour les scientifiques si une espèce est présente ou pas. C'est-à-dire qu'on arrive avec un enregistrement, on le fait passer, et comme c'est un champ territorial, si par exemple on peut faire ça avec la chouette chevêche, on passe le champ avec un magnétophone. Si il y a une chouette chevêche qui est déjà sur ce territoire, elle va répondre pour dire « Oh là, ici c'est chez moi, tu t'en vas ».
Voilà. D'accord, donc au final on arrive plus ou moins avec... les expériences, je suppose, qui ont été déjà menées, à communiquer quasiment avec les oiseaux et savoir s'ils sont présents ou pas, si tout va bien pour eux.
Ouais. Alors là, tu vas déjà un peu loin dans le sujet, mais c'est intéressant. En fait, oui, ça nous permet de savoir s'ils sont là. Et ça nous permet aussi de savoir si, effectivement, la population est en bonne santé. Parce qu'on se rend compte que plus la population est grande, ça veut dire plus il y a d'oiseaux sur un territoire, plus leurs champs sont complexes. Parce qu'ils vont devoir être capables de se différencier entre eux.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, d'un jardin à l'autre, si un rouge-gorge défend son territoire, il faut que, quand il chante, les autres oiseaux soient capables de reconnaître que c'est un rouge-gorge, mais que aussi c'est ce rouge-gorge-là qui est toujours là et qui est en place. D'autre part, la vigueur en fait et la qualité de son chant va donner des indications sur son état de santé et donc sur ses bonnes qualités de reproducteur.
Ouais. D'accord.
Donc c'est très très général. Mais on a fait des études intéressantes sur notamment les chants par population d'oiseaux et on s'est rendu compte qu'elles avaient des accents.
Oui.
Des accents, c'est surprenant ça.
selon les régions, ouais. Et juste pour revenir sur le fait que par exemple la huppe. Elle fait un son qui ressemble un peu à up-up-up. Ouais, je le fais très mal. Généralement, c'est 3. Et quand c'est un jeune reproducteur, il va plutôt faire 2 up d'affilée. Et un très bon reproducteur peut faire jusqu'à 4 up. Et le chant va pouvoir, va informer généralement la femelle. Et puis, du coup, nous aussi, en tant que scientifiques, de la capacité reproductrice de l'animal de l'individu qui est en face. Quoi.
Ouais, ce qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les oiseaux chantent, mais c'est pas forcément inné. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'apprentissage qui se rapproche de la façon dont les enfants apprennent à parler. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre au contact des adultes et que plus au début ils vont s'essayer, ça va pas ressembler à grand chose. Ils vont pas être capables de faire des beaux chants, ce qui nous permet nous aussi humains de savoir si on a affaire à un jeune ou pas. Et plus on va avancer dans l'âge, plus le chant va se complexifier et s'enrichir. Et il va atteindre un espèce de summum de sa complexité dans la période de reproduction, en pleine période de reproduction et en pleine force de l'âge, quoi. Donc ça varie vraiment, ça peut nous apprendre l'état de santé de l'individu, mais aussi de la population, et de sa présence ou pas. Donc nous, en tant que scientifiques, on se rend compte que étudier les chants, c'est vraiment très très riche, quoi. Voilà, après, il y a chant ou cri, c'est pas la même chose.
Et alors, qu'est-ce que c'est la différence ?
Eh bien, en fait, les chants sont considérés comme plus longs et plus complexes. Donc, en fait, les chants arrivent toujours en prélude amoureux, c'est vraiment la parade. Alors que les cris vont plutôt exprimer une menace, soit un appel, soit une menace, soit la peur. Donc, c'est un signal d'avertissement. Après, ce qui n'est pas évident, et ce qui peut nous tromper, c'est que certains oiseaux sont capables d'en imiter d'autres.
D'accord.
Voilà, les ménates sont capables d'imiter les paroles humaines, parce que c'est de l'imitation, c'est de l'apprentissage, hein, comme chez les autres oiseaux. Mais les étourneaux, par exemple, peuvent imiter des bribes de chant d'autres espèces. Donc, pour l'ornithologue débutant, c'est assez déroutant et ça peut avoir l'air un peu vicieux. Mais par exemple, la rousserolle verderolle, elle inclut dans son répertoire de chants des chants d'autres oiseaux qu'elle rencontre pendant son hivernage en Afrique.
Mais à quoi ça lui sert ?
bonne question. Ça peut lui servir à enrichir encore. C'est de l'imitation, c'est de l'apprentissage. Donc, soit au contact de la même espèce, ça va lui permettre d'enrichir. Soit ça peut permettre pour les tourneaux, par exemple, de dérouter d'autres oiseaux ou des prédateurs, par exemple. Voilà. D'accord. En faisant croire que dans le coin, il y a un rapace, donc faut mieux pas venir par là, alors qu'en fait c'est lui qui l'imite, quoi.
Oh, mais c'est une bonne technique, ça, alors.
Ouais, tout à fait. Moi, j'avais déjà entendu un étourneau imiter le miaulement d'un chat. Alors, je sais pas
ah,
si...
Ouais.
Voilà. Ah, oui, c'est assez déroutant, ouais.
Et du coup, là, tu disais qu'il chante pour séduire une femelle. ils peuvent crier pour alerter, ils peuvent défendre un territoire. C'est les seuls moments où on peut les entendre ou il y a d'autres...
On peut les entendre toute l'année. Après, le chant va atteindre son apogée pendant la période de reproduction. D'accord. Voilà. Et ensuite, tous les oiseaux ne vont pas chanter. Certains vont pouvoir chanter en couple, en duo. Donc c'est d'autant plus impressionnant parce que du coup, ça évolue. Mais c'est en plus un chant qui évolue à deux. Voilà. Il y a des oiseaux qui vont aussi faire plusieurs couvées par saison, donc ils vont réenrichir leur chant entre les couvées. C'est le cas des troglodytes, par exemple. Donc voilà, c'est un répertoire de chants qui est assez précis et qui varie en fonction des situations.
D'accord.
Après, voilà, il y a une histoire assez riche entre l'homme et les chants d'oiseaux, et c'est pas juste récent avec l'étude des ornithologues, ça date de bien plus longtemps.
En Afrique, par exemple, il y avait des chants écrits qui étaient souvent interprétés ou traduits par certains peuples en les voyant plutôt avec une image néfaste ou positive. Et on peut voir aussi que chez nous, la hulotte, le cri de la hulotte est souvent utilisé dans les films, dans les histoires, comme le bruit de la nuit, mais de la nuit qui fait peur, avec ce « ou » lointain dans la forêt. Ou alors l'effraie qui a quand même... eu cette image néfaste avec son cri qui est effrayant, c'est vrai, qui fait peur la nuit, la chouette porte carrément le terme effray, quoi, de ce terme effrayant, de par son chant. Et en plus, à l'époque, on l'a placardé sur les portes des maisons pour
éviter le mauvais œil.
Ouais. Voilà.
Après, il y a aussi une histoire plutôt de domestication, d'élevage d'oiseaux en cage depuis l'Antiquité pour juste se distraire par leur chant. Et donc c'était là que, pour obtenir de meilleurs chants, on isolait l'oiseau en fait afin de le stresser et pour le pousser à faire chanter plus fort et plus longtemps. C'est ce qui est utilisé pour que les ménates imitent l'être humain par crainte de la solitude. Et cette raison fait que aujourd'hui encore, on peut capturer... c'est du braconnage aujourd'hui, parce que les espèces sont protégées, mais on peut encore capturer par braconnage des espèces sauvages pour la vente, pour le chant. Voilà. Donc la relation entre l'oiseau et l'humain par rapport au chant n'a pas toujours été très joyeuse pour ces animaux-là. Du coup, c'était à l'époque pas juste un loisir, c'était une nécessité aussi, mais on a pas mal utilisé les chants d'oiseaux pour la chasse. C'est-à-dire qu'on fabriquait des appos pour pouvoir reproduire le chant. Donc c'est comme la repasse en fait qui aujourd'hui nous permet de savoir si un oiseau est là. Mais là, les appos, nous permettaient d'imiter le chant d'oiseau pour les faire venir et pour les chasser à ce moment-là.
D'accord.
Voilà. Après, c'est que récemment en fait que l'être humain a cherché à mieux connaître la signification des chants d'oiseaux.
Donc c'est là où, c'est récemment qu'on a découvert ce que tu disais tout à l'heure, que les oiseaux avaient différents accents ou alors qu'il y avait un apprentissage. Et une évolution des champs à travers les espèces.
Ouais. Et plus ça va, plus on en apprend, parce que c'est vraiment une science assez nouvelle et qui évolue en fait avec les outils aussi scientifiques d'enregistrement, d'analyse de son, etc. Parce qu'il y a des animaux qui ont vraiment des champs très très complexes et que l'oreille humaine n'arrive pas à analyser complètement. Donc il faut pouvoir décrypter le champ. Par exemple, l'alouette, on se rend compte en enregistrant et en ralentissant les sons qu'elle émet jusqu'à 700 syllabes différentes. Voilà. Donc ça, l'oreille humaine, à part, même pour les accents des populations ou les accents de certains individus, si on s'entraîne bien, on peut essayer de reconnaître le rouge-gorge de son jardin par rapport au rouge-gorge du voisin, mais c'est vraiment délicat, donc à part par les logiciels aujourd'hui d'analyse de son, c'est assez compliqué. Mais ça, ce sera peut-être le sujet de la prochaine émission, puisqu'on vous apprendra à reconnaître les principaux chants des oiseaux des jardins.
Bonne fin de journée.
Et la semaine prochaine.
Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.